En ce deuxième dimanche de Pâques, nous avons plusieurs raisons de nous réjouir. La première, c'est que nous célébrons le dernier jour de l'octave. Pâques est la plus grande fête chrétienne. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et pendant 8 jours, nous nous réjouissons. Et pendant 8 jours, peut-être que vous êtes venus à la messe aussi en semaine, nous avons chanté l'Alléluia pascal. Et le verset alléluiatique correspondait à un verset du psaume 117. « Voici ce jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Pendant 8 jours, c'est Pâques et c'est la fête. Nous avons aussi chanté, juste avant l'Alléluia, la séquence de Pâques. Au cœur de la séquence, cette phrase extraordinaire, « La mort et la vie s'affrontèrent » en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. La semaine dernière, nous sommes descendus jusque dans les profondeurs de la mort. Nous avons suivi le Christ dans sa passion et nous sommes renés, ressuscités avec lui. Alors, nous avons bien le droit de nous réjouir pendant 8 jours. Deuxième raison de nous réjouir, c'est que le deuxième dimanche de Pâques est traditionnellement le dimanche in albis, le dimanche en blanc. Et je suis très heureux de voir parmi nous des néophytes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques et qui sont habillés avec leur foulard blanc ou un haut blanc pour signifier qu'ils sont renés. Dans certains pays, d'ailleurs, pendant 8 jours, ceux qui avaient été baptisés dans la nuit de Pâques allaient au travail habillés en blanc, et pendant 8 jours, ils gardaient le vêtement de Pâques. Quelle joie de voir, jour après jour, année après année, la communauté chrétienne s'agrandir. Et vous savez que, dans la nuit de Pâques, cette année, plus de 5 500 adultes ont été baptisés. Quelle joie! Continuons de les accueillir. Chacun fait partie de cette communauté paroissiale que nous voulons construire jour après jour à la suite du Christ ressuscité. Nous ne nous rassemblons pas le dimanche parce que c'est la tradition. Nous nous rassemblons le dimanche pour rencontrer le Christ ressuscité présent au milieu de nous. Troisième raison de nous réjouir en ce jour, c'est que depuis l'an 2000, le pape Jean-Paul II a décidé d'instituer en ce deuxième dimanche de Pâques la fête de la Divine Miséricorde. C'était le 30 avril 2000, alors qu'il canonisait sœur Faustine Kowalska, cette religieuse polonaise qui avait eu des apparitions du Christ miséricordieux. Et elle est décédée en 1938. Et Jésus avait demandé à sœur Faustine puisse être instituée dans l'Église une fête de la Divine Miséricorde. Saint Jean-Paul II l'a fait en l'an 2000. Il a choisi le deuxième dimanche de Pâques, peut-être parce que les lectures que nous avons entendues nous tournent véritablement vers cette miséricorde divine. J'aimerais reprendre avec vous la deuxième lecture, qui est le début de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Une lettre magnifique, qui est en fait une sorte d'encyclique de Saint Pierre, le premier pape, écrite sans doute entre 50 et 64, un des premiers écrits chrétiens, et qui est en fait une sorte de catéchèse baptismale. Dans les premiers temps de l'Église, tout n'était pas idyllique. Bien sûr, dans les Actes des Apôtres, et nous l'avons entendu dans la première lecture, on voit que tout était en commun, que finalement, les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils se rassemblaient à la fraction du pain, ils étaient fidèles aux prières, à la communion fraternelle, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse, voilà. Et chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Et en même temps, si vous lisez au chapitre 5 des Actes des Apôtres, on voit qu'il y avait déjà des dissensions. Il y avait un certain Ananie avec sa femme, à un moment, qui a vendu un champ. Normalement, il aurait tout dû mettre en commun. Il en a gardé la moitié pour lui. Et ça s'est mal terminé, puisqu'il est mort devant les apôtres, sa femme aussi. Et il y a eu, justement, de la tricherie, parfois des dissensions dans les communautés chrétiennes, les premières communautés chrétiennes. Donc, il ne faut pas tout idéaliser. Et en même temps, nous sommes invités, nous aussi 2000 ans plus tard, à essayer de combattre toutes les dissensions qu'il y a entre nous pour vivre de cette communion fraternelle qui vient de la résurrection du Seigneur. En tout cas, saint Pierre, donc, dans sa première lettre, encourage les premiers chrétiens à être fidèles dans les difficultés, malgré les difficultés, au Christ ressuscité qui les rassemble. Et il commence ainsi sa lettre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il sait que les premiers chrétiens connaissent des difficultés et il demande de bénir. Même dans les difficultés, nous sommes invités à bénir et à rendre grâce au Seigneur. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et pourquoi Saint-Pierre nous invite aussi à la bénédiction ? C'est la suite du texte. « Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Si nous sommes invités à bénir le Seigneur jour après jour, c'est parce que nous sommes sauvés. Parce que, en son Fils Jésus-Christ, il nous a fait renaître. Il nous a arrachés aux ténèbres. Il nous a arrachés à l'esclavage du péché. Il nous a tirés de la mort à laquelle nous sommes appelés. Si le Christ ne nous sauve pas, justement, de ce péché absolu qui est la mort définitive, c'est ça l'occasion de notre bénédiction. Dans sa grande miséricorde, parce que Dieu nous aime infiniment malgré nos péchés, malgré nos dissensions, malgré nos fragilités, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. Et il nous a fait renaître, nous dit Saint-Pierre, pour une vivante espérance. Et cette vivante espérance, c'est quoi ? C'est l'espérance de posséder un jour l'héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. C'est quoi cet héritage que nous avons recevoir et que nous avons d'ailleurs déjà reçu le jour de notre baptême ? Cet héritage, c'est d'être enfant de Dieu. C'est d'être fils et fille bien-aimés du Père. C'est ce que nous sommes devenus le jour de notre baptême. Et nous sommes invités, jour après jour, particulièrement pendant ce temps pascal, à prendre conscience de ce don inouï. Nous sommes sauvés, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes ses enfants bien-aimés. Et ça, Dieu l'a fait dans sa grande miséricorde. Finalement, tout ce que Dieu fait est œuvre de miséricorde. Et sœur Faustine nous le dit à sa manière. Déjà, lorsqu'il a créé le monde, Dieu l'a fait par miséricorde. Sainte Faustine, dans son petit journal, écrivait ceci en parlant de la miséricorde de Dieu qui se révèle à travers l'œuvre de la création. Dieu, qui en toi-même est bonheur et qui n'a nul besoin des créatures pour ce bonheur, car tu es toi-même la plénitude de l'amour, cependant, dans ton infinie miséricorde, tu appelles à l'existence les créatures et tu leur donnes part à ton bonheur éternel et à ton éternelle vie intérieure dont tu vis, un seul Dieu en trois personnes. En créant le monde, Dieu nous a sortis du néant et c'est déjà une œuvre de miséricorde. C'est aussi une œuvre de miséricorde que Dieu a faite, nous rappelle sainte Faustine, lorsqu'il nous a recréés dans le mystère de la rédemption. Et c'est ce que nous avons vécu il y a quelques jours, tout au cours des célébrations de la Semaine Sainte, particulièrement le jeudi, le vendredi et le samedi saint, où nous sommes renés grâce à la miséricorde du Seigneur. Et sœur Faustine nous le dit dans un extrait de son petit journal. « La miséricorde, dit-elle, t'a poussé à daigner descendre jusqu'à nous et à nous tirer de notre misère. Dieu descendra sur la terre, le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, l'immortel s'abaissera. L'inconcevable miracle de ta miséricorde a lieu, ô Seigneur. Le Verbe se fait chair. Dieu a habité parmi nous, le Verbe divin, c'est la miséricorde incarnée. » Oui, tout est miséricorde en Dieu. Sœur Faustine nous le dit, tout commence en Dieu par sa miséricorde. Tout se termine dans sa miséricorde. Et c'est ce que nous rappelle Saint-Pierre dans ce qu'on pourrait considérer comme la première encyclique d'un pape. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance cet héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Et cet héritage nous est réservé dans les cieux, nous dit saint Pierre, mais nous sommes invités à en vivre dès maintenant, car c'est dès maintenant que nous sommes invités à vivre de la résurrection du Seigneur. Dans l'Évangile, enfin, Jésus nous montre toute sa miséricorde. Nous connaissons bien ce passage d'Évangile avec ce fameux événement lorsque Jésus apparaît à ses disciples le soir de Pâques. Thomas est absent et 8 jours plus tard, Thomas est là. Et il ne croit pas, il veut voir. Et Jésus va lui révéler aussi toute sa miséricorde. Comment ? Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Vous savez que les commentateurs nous disent « il était là au milieu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il était à même distance de chaque personne. Ça veut dire que le Seigneur se donne à tous. Il n'était pas plus proche de certains, peut-être plus proche de saint Jean qui était resté au pied de la croix. Il était là au milieu d'eux. C'est-à-dire que nous pouvons tous, qui que nous soyons, quelle qu'ait été notre histoire, accueillir l'amour de Dieu et sa miséricorde. Donc il se tint là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire ? Je ne sais pas, mais j'aurais été le Christ, peut-être que j'aurais dit quand même. Je suis mort sur la croix le vendredi, qui est resté ? Vous êtes tous partis. Il y en a un d'ailleurs qui m'a renié, il y en a un qui m'a trahi. Bon, saint Jean, il est resté. Il ne leur fait aucun reproche, mais il leur apporte la paix. Est-ce que ce n'est pas le signe, justement, de son infinie miséricorde ? Dieu ne nous juge pas. Chaque fois qu'il s'approche d'un pécheur, de la Samaritaine, de Zachée, du bon larron, il ne va pas les juger, mais il leur pardonne, il nous pardonne lorsque nous nous éloignons de lui. La paix soit avec vous. Et ensuite, eh bien, il s'approche de Thomas et il lui dit « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Il a gardé dans sa chair les marques, justement, de sa passion. Et peut-être qu'en voyant justement ces marques, les disciples ne sont pas très fiers en se rappelant qu'ils sont partis, qu'ils l'ont trahi. Mais en même temps, justement, ces marques de sa passion sont devenues des marques de sa glorification. Et Jésus ne juge personne. « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et il invite Thomas à croire, comme il invite tous ses disciples à croire. Oui, rendons grâce à ce Dieu qui nous aime depuis toujours. Il nous a créés, donné la vie, l'être et l'existence par pure miséricorde. Il nous a recréés dans le mystère de la rédemption par pure miséricorde. Et il veut que nous vivions aujourd'hui dans l'Église en vivant de sa miséricorde. Voilà pourquoi, dimanche après dimanche, nous nous approchons du mystère de l'Eucharistie pour nous nourrir de sa vie. Voilà pourquoi nous pouvons aussi nous approcher régulièrement du sacrement de la réconciliation où s'épanche sa miséricorde en abondance. Oui, merci Seigneur pour le don de ta miséricorde. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir créés par pure miséricorde, de nous avoir recréés par pure miséricorde. Donne-nous de vivre jour après jour dans ton amour, conscient que tu es vivant au milieu de ton Église, au milieu de chacun d'entre nous. Amen.